Les conférences du Collège de France.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de vous revoir pour cette dernière conférence. Je voudrais aussi encore une fois remercier de mon cœur Samantha Besson, Antoine Lilti, Vincent Delforge-Pirenne et aussi Edith Heard pour m'avoir donné cette occasion de réfléchir sur des questions très très difficiles et aussi de m'avoir donné de vivre en France pendant un moment très intéressant. Intéressant plutôt dans le sens de la malédiction chinoise. Puissiez-vous vivre des temps intéressants. Je voudrais aussi remercier Mathilde Vignier pour l'aide technique parfaite avec pas mal de problèmes pour quelqu'un comme moi. Et je vous dis quelques mots sur notre agenda pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je commence par vous rappeler nos questions principales. Après ça, j'approfondis un peu notre analyse des instruments et des institutions. Il y a pas mal de choses qui se sont passées après environ 2020. Après ça, je me permets une petite parenthèse sur la Pologne. Pourquoi ? Parce que la Pologne, d'une certaine façon, est devenue le laboratoire en ce qui concerne la question comment est-on peut rétablir l'état des droits et la démocratie après une autocratie électorale. Après ça, finalement, le grand moment, je vous offre 5 propositions en ce qui concerne la question qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger la démocratie et l'état des droits en Europe. Et finalement, je réponds à quelques objections. Et après ça, si vous voulez, on peut discuter. Alors, comme d'habitude, voilà nos questions principales. Encore une fois, premièrement, serait une protection supranationale de la démocratie et de l'état des droits légitime? Deuxièmement, la question des critères et aussi, pour être un peu plus précis, la vérification. Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec la démocratie et l'état des droits dans un État membre de l'Union européenne? C'est plutôt une question épistémique. Troisièmement, qui doit être le gardien? Question sur les acteurs. Et finalement, la question des sanctions, plutôt des carottes ou plutôt des bâtons. On a déjà, si j'ose dire, trouvé quelques réponses. On a trouvé quelques réponses chez le grand juriste allemand Karl Löwenstein et sa théorie de la démocratie militante. Je vous rappelle que l'idée cruciale, c'est qu'on peut quelquefois, pour éviter des dangers pour la démocratie, faire des restrictions, des droits politiques fondamentaux. Attention, ça veut dire aussi qu'on fait quelque chose, si vous voulez, pas en ce qui concerne les actions, mais les acteurs. On vise vraiment des institutions, comme des partis politiques, comme une prohibition d'un parti politique, ou même des acteurs individuels. On a aussi déjà trouvé quelques justifications pour une telle approche avec l'Union européenne. On a dit que la confiance mutuelle entre les institutions politiques et judiciaires en Europe est absolument fondamentale pour la construction de l'Union européenne. On a aussi souligné que les tribunaux nationaux agissent toujours comme des tribunaux de l'Union européenne lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union européenne. On a aussi souligné qu'on ne peut pas vraiment dire que bon, les Hongrois, les Polonais doivent céder eux-mêmes, parce qu'après tout, tous les citoyens européens ont le droit de n'être pas gouvernés par un gouvernement autocratique. Autrement dit, nous sommes tous interconnectés, pas seulement économiquement dans le marché unique, mais aussi politiquement dans l'Union européenne. Et j'ajoute juste un mot ici. D'une certaine façon, on pourrait aussi dire qu'il n'est pas possible d'être dans l'Union européenne et en même temps n'être pas dans l'Union européenne. Je m'explique. Si vous déclarez, par exemple, la primauté de la Constitution polonaise sur le droit européen, d'une certaine façon, ça, c'est déjà une sécession. On veut avoir tous les avantages et, bien sûr, toutes les subventions. En même temps, on dit clairement qu'on ne respecte pas vraiment les règles. Évidemment, à mon avis, c'est une contradiction. Ça marche pas dans une structure politique. J'ajoute aussi un argument dont on a parlé la dernière fois, qu'en général, peut-être, l'Union européenne a un problème structurel. Évidemment, l'Union européenne n'est pas un État, mais d'une certaine façon, elle fonctionne quand même, au moins, comme une fédération. Mais normalement, dans une fédération, le centre a les moyens pour une, si vous voulez, ingérence dans un État membre d'une fédération, où il y a la possibilité d'éjecter un État membre qui ne respecte pas les règles. Mais l'Union européenne a ni les moyens d'ingérence et ni la possibilité d'éjecter un État membre. C'est simplement pas prévu dans les traités. Comme vous savez, on peut quitter, comme la Grande-Bretagne, mais il est impossible de dire, voilà, c'est fini, il faut éjecter un État. Ça veut dire, effectivement, si vous posez la question, serait-il possible d'avoir même une dictature officielle au sein de l'Union européenne? D'une certaine façon, la réponse doit être oui, ça serait tout à fait possible. J'ajoute aussi que d'une certaine façon, inconsciemment sans doute, l'Union européenne a créé, c'est ce que notre collègue Dan Kellerman appelle un piège autocratique. Ça veut dire que d'une certaine façon, l'Union européenne peut financer les autocraties. On a vu ça très clairement pendant pas mal des années avec la Hongrie et aussi la Pologne. Et en même temps, peut-être moins évident, les frontières, évidemment, sont ouvertes. Et ça joue un rôle parce que les gens qui ne sont pas contents, en particulier les jeunes, ils peuvent sortir. Ils peuvent travailler à Paris, à Berlin, etc. Ce n'est pas comme pendant la guerre froide. Là, les mécontents, les dissidents restent forcément dans le pays. Maintenant, bon, on peut sortir et je dirais que ça peut effectivement signifier moins de pression sur des gouvernements plus ou moins autocratiques. J'ajoute un mot sur des conclusions en ce qui concerne les critères. On a dit que, en ce qui concerne la démocratie, on peut adopter une définition assez minimale, si vous voulez. On a parlé de la possibilité d'alternance au pouvoir, ou aussi, selon l'expression de notre collègue Adam Chevosky, de l'incertitude institutionnalisée. Mais ici, on pourrait aussi évoquer la pensée de, par exemple, Claude Lefort, et on peut parler de la démocratie comme un espace d'indétermination où il y a toujours une mise en discussion possible de ce qui devrait être la loi, le pouvoir et la société pour être ce qu'ils doivent être. Tout ça n'est pas vraiment possible dans une autocratie. Ça signifie aussi qu'on ne peut pas vraiment parler d'une démocratie illibérale. Si on veut dire une démocratie illibérale, ça veut dire qu'on a des élections, mais on n'a pas vraiment des droits. Ça n'a aucun sens. La démocratie ne marche pas sans des droits politiques fondamentaux. La démocratie sans droit, c'est une oxymore. Certes, il y a toujours une zone grise, c'est ce qu'on appelle souvent chez nos collègues en sciences politiques, l'autoritarisme concurrentiel, avec peut-être une petite chance d'une alternance, dans l'alternance en pouvoir, des régimes hybrides, etc. Je ne veux pas dire que toutes les choses sont toujours claires, mais quand même, il est possible de parler de la possibilité d'alternance au pouvoir comme un critère assez forte. J'ajoute un mot sur les systèmes judiciaires. Et j'ai dit que, bon, tout le monde est d'accord en ce qui concerne l'indépendance du système judiciaire. Un aspect, peut-être moins évident, c'est l'impartialité des juges. Et ici, je m'appuie sur la pensée de Gertrud Lübewolf, grand juriste allemand, ancien membre de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui nous offre la pensée que même si les juges ne prennent pas forcément des ordres politiques directs des partis politiques, il y a un problème si vous avez, par exemple, un tribunal, comme en Pologne, qui est complètement homogène. Parce que chaque juge était nommé par le parti droit et justice. Et selon Lübewolf, ça veut dire qu'on manque une certaine impartialité, on manque un pluralisme des perspectives, des arguments dans un processus délibératif. Et ça, évidemment, c'est aussi la raison pourquoi, dans pas mal des démocraties, les partis doivent trouver un consensus autour des juges. Et normalement, on n'accepte pas une situation où tous les juges sont nommés seulement par un seul parti. Bon, pour faire bref, j'ajoute quelques mots sur nos conclusions en ce qui concerne les instruments et les institutions qui existent déjà. Et pourquoi est-ce que je vous montre cette image? Vous savez, c'est la règle du jeu. Et j'évoque les mots de Octave, alias Jean Renoir. Tu comprends, sur cette terre, il y a quelque chose d'effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Pourquoi est-ce que j'ajoute ces mots? Bon, en Europe, tout le monde a ses raisons. Je m'explique. On a analysé l'article 7 du traité, la possibilité d'une sous-suspension du vote au Conseil européen. Et on a compris que ça ne marchera probablement jamais. Il y a une raison pourquoi tout le monde dit que c'est une option nucléaire, parce que l'article 7 est clairement en tension avec la culture du compromis et du consensus qui caractérise l'Union européenne. Moins évident, on ne peut même pas vraiment utiliser le mot autocratie dans les discussions au Conseil européen, parce que selon l'article 10 du traité, ça effectivement signifierait que les décisions, toutes les décisions du Conseil européen seraient illégales, parce que c'est simplement pas permis d'avoir une autocratie au Conseil européen. On a vu aussi que tout le monde est très conscient d'un danger, d'une dynamique d'un prêté pour un rendu. rendu. Et on a déjà eu pas mal des exemples comme ça. Après la tentative de déclencher l'article 7 contre le gouvernement polonais, le ministre de la Justice en Pologne, Ziobro, exigeait une révision du droit allemand. Et en particulier, il exigeait une procédure d'infraction contre l'Allemagne, avec l'argument que, bon, c'est exactement la même chose en Allemagne, les juges sont nommés par les ministres, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça en Pologne, si ça n'est pas légal en Pologne, pourquoi pas punir l'Allemagne, etc., etc. Alors, c'est vraiment une dynamique d'escalation, si vous voulez, qui est tout à fait le contraire de ce qu'on trouve normalement au Conseil européen. Et j'ajoute une raison assez banale. Il y a toujours d'autres crises plus importantes. On peut dire rétrospectivement que en 2000, vous vous souvenez, l'an où Jacques Chirac et Gerhard Schröder ont déclenché les sanctions contre Vienne, c'était un monde assez calme. Mais pendant la crise de l'euro, pendant la crise, entre guillemets, des réfugiés, avec la guerre en Ukraine, on peut toujours dire non. L'unité européenne est beaucoup plus importante que le problème petit avec l'état des droits dans des pays qui, en tout cas, on ne connaît pas très, très bien. Ça, c'est toujours un argument. Et franchement, entre parenthèses, parfois, on a entendu, par exemple, des ministres en France, oui, c'est vrai, théoriquement, François Hollande a eu l'occasion de défendre les valeurs républicaines en Europe. Mais Angela Merkel était contre, parce qu'avec la crise de l'euro, il y avait déjà beaucoup de pressions, beaucoup de problèmes, et évidemment, il était plus important de s'adresser aux problèmes économiques et financiers, et on laisse l'état des droits et la démocratie à côté. Bon, comme je disais, tout le monde a toujours ses raisons. Même chose, si j'ose dire, en ce qui concerne la Commission européenne. Encore une fois, on a parlé d'un problème structurel. Qu'est-ce que le problème structurel ici? C'est que la Commission a deux rôles en même temps. Elle est le gardien des traités, procureur général, si vous voulez, et en même temps, elle est un acteur politique, avec des idées politiques pour approfondir l'intégration européenne. Et on a parlé un peu des études de nos collègues, encore une fois, Dan Kellerman et Tommaso Pavone, qui trouvent que, d'une certaine façon, la Commission est disparue comme gardien du traité. Ils trouvent, je vous rappelle ces conclusions, qu'entre 2004 et 2018, les procédures d'infraction baissent par 67%. C'est assez dramatique. Et en même temps, les infractions portées devant la Cour de justice baissent de 87%. Alors, on ne fait pas beaucoup contre les États membres parce qu'on veut le soutien des États membres pour des projets politiques européen. Et on a parlé un peu de la hypothèse de notre collègue Laurent Pech qui nous dit que, bon, la Commission dit toujours il manque des outils, la boîte à outils, on a des problèmes avec ça. Mais selon Pech, c'était juste une stratégie pour gagner du temps, pour effectivement ne faire rien, parce qu'on veut en même temps ne pas perdre le soutien politique des États membres. Bon, comme je disais, on a toujours des raisons. Parlement européen, tout d'abord, le Parlement n'a pas le pouvoir. Et en plus, évidemment, le Parlement est vu comme partisan. C'est tout à fait légitime, mais ce n'est pas la même chose comme un gardien neutre des valeurs européennes. On a aussi vu que, effectivement, au moins dans les cas de Fidesz, ça veut dire le parti de Viktor Orban, quelquefois il y avait des motivations stratégiques pour protéger un parti autocratique. Parce que pour beaucoup des années, le parti populaire européen a effectivement toléré les députés de Fidesz pour soutenir la majorité au Parlement européen. Je vous rappelle que peut-être pendant les années 80, le Parlement n'était pas vraiment très important. Mais maintenant, c'est vraiment important. C'est vraiment important d'avoir la majorité. Je vous rappelle aussi le mot de Helmut Kohl. On n'a pas construit l'Europe pour laisser l'Europe aux socialistes. Alors, le PPE veut toujours être le plus grand parti. Et pour ça, il était vraiment utile d'avoir les 11 ou 12 députés de Fidesz. On ne voulait pas vraiment sanctionner Orban à l'époque. En fait, en général, il est vrai que les députés du pays de Visegrad, ça veut dire la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie et évidemment aussi la Pologne, en général, ne veulent pas des sanctions. Alors, il y a des motivations stratégiques contre l'idée que le Parlement peut-être sera important pour la protection de la démocratie. Et j'ajoute finalement que si on fait des sondages, c'est assez intéressant que les électeurs ne veulent pas les alliances avec des populistes ou l'extrême droite à l'échelle supranationale. Mais en général, on n'est pas forcément conscient. C'est ce que les familles politiques à l'échelle supranationale font exactement. Et il est évidemment très facile de cacher. C'est ce qu'on fait, parce que personne ne connaît exactement tous les partis, c'est quoi exactement en Slovaquie avec ce parti ou l'autre parti, etc. Alors c'est vraiment un jeu à plusieurs échelles, et on peut faire des choses à l'échelle supranationale qu'on ne peut pas faire à l'échelle nationale. Bien sûr, d'une certaine façon, c'est encore une fois un moment pour mentionner le vieux problème que, après tout, il n'existe pas vraiment une opinion publique européenne de tout. Comme vous savez, cela a toujours été le grand plainte des intellectuels européens, mais dans ce cas-là, c'est vraiment important que des mobilisations transnationales, ça n'existe pas vraiment. Et en plus, les familles politiques européennes ne peuvent même pas vraiment intervenir dans le cadre des États-nations. On ne peut pas, par exemple, financer des partis dans un autre pays. Bon, quand même, il ne faut pas être trop pessimiste parce que, comme je disais, certainement, les choses ont changé un peu. On a déjà parlé du fait que, après tout, en décembre 2017, finalement, la Commission européenne a engagé la procédure au titre de l'article 7 contre la Pologne et en septembre 2018, finalement, le Parlement européen a décidé de faire le même pour la Hongrie. Mais comme vous savez, le Conseil n'a jamais réagi, n'a jamais répondu. Mais plus récemment, la Commission, finalement, a bloqué 103,8 milliards d'euros pour la Hongrie et la Pologne. C'est assez d'argent. Et c'était en utilisant le règlement portant disposition commune. C'est un article super obscur, mais c'est ce qui est important, c'est que tout ça était déjà là. Il était toujours possible d'invoquer cet mécanisme. L'invention des nouveaux mécanismes, de nouveaux instruments n'était pas du tout nécessaire. Alors ça renforce un peu l'hypothèse de Laurent Pech que l'invention des instruments, c'est ce qu'il appelle le cycle des inventions des instruments, peut-être après tout, n'était pas nécessaire du tout. En même temps, il est vrai que la Commission a aussi invoqué le nouveau règlement de conditionnalité pour lutter contre la corruption. Ça a été seulement disponible en 2021. Et aussi, des mécanismes spécifiques de ce qu'on appelle Next Generation EU, c'est-à-dire la facilité pour la reprise et la résilience, instrument phare, comme vous savez, du plan de relance européen après la pandémie. Et là, évidemment, ça n'existe non plus avant. Et là, on a ajouté des conditions comme indépendance du système judiciaire et aussi, moins évident, respect pour la charte des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Et on a utilisé précisément ces leviers pour dire non, on peut vraiment maintenant, on peut vraiment bloquer des subventions. La question est évidemment pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ça ? Je dirais plusieurs facteurs. Premièrement, en 2021, Fidesz, le parti de Viktor Orban, a finalement quitté le PPE. Alors, la protection disparue et le parti Droit et Justice, comme vous savez, n'était jamais dans le PPE, n'a jamais eu la même protection par une grande famille politique à l'échelle supranationale. Mais aussi, si vous voulez, un changement des stratégies chez les populistes eux-mêmes. Auparavant, Orban toujours faisait ce qu'il appelait la danse du paon. Ça veut dire, je dis une chose à Bruxelles, je dis une chose à l'audience européenne, et je fais d'autres choses chez moi. Et aussi, je dis autre chose chez moi, parce que personne ne comprend la langue hongroise, alors pas de problème. Mais environ en 2015-2016, la stratégie a changé. Soudainement, l'affrontement direct entre l'Europe et les gouvernements hongrois et aussi polonais. D'une certaine façon, on ne voulait plus, si j'ose dire, simuler, on ne veut plus freindre la conformité avec le droit européen. C'était plus clair, c'était encore plus clair dans le cas de la Pologne, où les cours ont dit clairement non, on ne respecte plus la primauté du droit européen, on déclare la primauté de la constitution polonaise. On est prêt à restricter la liberté même de soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice à Luxembourg. On a fait la loi muselière en ce qui concerne les juges. On a suspendu beaucoup les juges. Et par contre, la Cour de justice à Luxembourg a condamné plusieurs fois la Pologne, par exemple, à verser une amende journalière de millions d'euros. Alors, c'était vraiment, c'est ce que notre collègue Angelika Nussberger, dans ses conférences ici au Collège de France, appelait une guerre juridique, une guerre entre les cours. Et ça c'était nouveau. Ça, c'était pas comme ça en 2010, par exemple. En plus, finalement, la Cour de justice à Luxembourg a affirmé clairement que la Commission européenne peut protéger l'état de droit et aussi protéger la démocratie. Ce n'était pas évident avant ces décisions, mais maintenant, à Bruxelles, on parle directement, clairement, de la protection de la démocratie. Deux exemples, c'est ce qu'on appelait en Pologne la Lex Tusk. C'était vraiment une chasse aux sorcières pour créer une situation où l'ancien Premier ministre n'était pas capable de devenir Premier ministre encore une fois. Aussi, entre exemples, la loi pour la protection de la souveraineté en Hongrie, c'est encore une fois une loi effectivement contre les ONG. Et maintenant, on est prêt à dire à Bruxelles, non, ce ne sont pas simplement les mesures contre l'état des droits, non, ça concerne la démocratie directement. Bon, comme vous savez, en octobre de 2023, la coalition dirigée par la plateforme civique de Donald Tusk remporte les élections en Pologne, et en mai 2024, un jour avant le cycle ici, en fait, la Commission européenne a décidé de clore la procédure prévue à l'article 7 au mois à l'égard de la Pologne. Alors, je me permets une petite parenthèse précisément sur la question: qu'est-ce qu'il faut maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour rétablir l'état des droits? La Commission a débloqué les subventions, tout va bien, mais qu'est-ce qu'on fait dans l'État membre exactement? Et c'est ce qu'il est important de souligner, à mon avis, c'est qu'on n'a pas, un, si vous voulez, mode d'emploi préétabli. On ne peut vraiment pas tirer des leçons des années 70 ou 80. Les lieux communs de c'est ce qu'on à l'époque appelait la transitologie, ça veut dire le savoir sur les transitions négociées, presque une industrie académique, selon notre collègue Jacques Rupnik, tous ces leçons ne marchent pas vraiment. Dans une situation avec une polarisation très très forte, comme en Pologne aujourd'hui, comme en Hongrie aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire, bon, on fait par exemple une table ronde pour trouver un consensus sur la transition. Ça ne marche pas. Aussi, il faut dire qu'on ne peut pas vraiment simplement accorder une compensation soit à la nomenclature communiste ou soit aux militaires, comme en Amérique latine, pour assurer une transition à la démocratie. Parce que ça ne fonctionne pas dans une kleptocratie. Ils ont déjà l'industrie et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut offrir à un gouvernement comme ça? Alors, pour faire bref, la Pologne est vraiment le premier laboratoire en ce qui concerne une situation où l'égalité et légitimité sont clairement en tension, où il n'est pas du tout clair comment on peut renverser cet légalisme autocratique dont on a parlé dans la deuxième conférence, ou autrement dit, comment peut-on, si vous voulez, rétablir l'esprit des lois en respectant ou peut-être en ne respectant pas la lettre du loi. Bon, il y a quand même quelques réponses. Il y a des choses assez simples et des choses qui sont assez difficiles. Je m'explique. Des choses simples sont rejoindre le bureau du procureur général européen. C'était promis de tous, que c'est aussi la promesse de l'opposition en Hongrie. Ça, c'est assez simple. Il est aussi assez simple de restaurer l'indépendance du procureur général en Pologne. Il est aussi assez simple de reconnaître la primauté du droit européen et s'engager à appliquer les décisions de la justice, de la Cour de justice de l'Union européenne, et aussi la Cour européenne des droits de l'homme. On peut simplement dire, bon, ces déclarations de la primauté de la constitution polonaise, c'est fini, maintenant on fait comme avant. Mais beaucoup plus difficile est la question: qu'est-ce qu'on fait exactement avec ce qu'on appelle en Pologne les néo-juges? Ça veut dire les juges qui étaient nommés avec des procédures apparemment pas vraiment légitimes, ou encore plus difficile, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on appelle les doubles juges? Il y avait déjà un juge, il a remplacé une personne avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, on a deux juges en même temps. Quelquefois, certes, on peut trouver des fautes avec ces nominations antérieures. Et on peut aussi, théoriquement, faire ce qu'on a appelé une remise à zéro constitutionnelle. On peut dire, bon, au moment, le tribunal constitutionnel est complètement dominé par les juges nommés par le parti droit et justice, mais on peut remplacer tous les juges, mais ça ne veut pas dire que maintenant on nomme seulement les juges du parti de Tusk, mais on peut trouver une procédure pour trouver une majorité de 2/3 des députés au Sejm, au Parlement polonais, pour avoir, encore une fois, un pluralisme, si vous voulez. Mais il y a un problème, c'est que les majorités comme ça n'existent pas. On ne peut pas voter des lois systémiques. Et comme vous savez peut-être, le président Andrzej Duda, qui est affilié au parti de droit et justice, a la possibilité de mettre son veto sur les lois. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et par conséquent, le gouvernement s'appuie au moment sur c'est ce qu'on appelle les déclarations parlementaires, c'est-à-dire de simples résolutions du Parlement, des mesures un peu ad hoc ou des brèches législatives. Mais clairement, ça donne l'impression d'une symétrie entre la situation comme avec droit et justice, et c'est ce qu'on fait maintenant, ou autrement dit, on pratique c'est ce que l'on dénonce, et d'une certaine façon, on peut comprendre la situation comme une prolongation d'une guerre civile froide dans un contexte d'une polarisation très très forte. Et certainement, les gens comme Duda ont critiqué cette situation. Duda parle de la tyrannie de l'état de droit ou même du terreur de l'état de droit. Kaczynski, l'homme fort du parti droit et justice, parle même de la dictature. Il compare la situation actuelle à la loi martiale introduite sous le régime communiste pendant les années 80. Et il évoque même les prisonniers politiques du régime de Tusk. Alors, vous voyez bien que dans une situation comme ça, table ronde, peut-être pas. Consensus autour des juges, peut-être pas. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout ça. Juste pour souligner que, par exemple, une ancienne juge et aussi le premier ombudsman, je ne sais pas pourquoi on n'a pas dit ombudswoman en anglais, mais voilà, en Pologne, la grande défenseuse des droits de l'homme, Eva Wietowska, dit, pour affaiblir cette impression d'une simple symétrie entre les deux parties, les auteurs de l'infection de notre système constitutionnel se réfèrent aux principes de l'ordre juridique qu'ils ont eux-mêmes violé et dont ils ont bétonné la possibilité d'amendement. Et j'ajoute aussi une citation du ministre de la justice, c'était aussi un ombudsman et un grand militant des droits de l'homme, notre ami Adam Bodnar. Il a bien compris que sa tâche est extrêmement difficile, mais quand même, il insiste, et je cite, « Dans tous les cas, il faut rétablir l'état des droits pas à pas, là où c'est possible quand les conditions le permettent. » Souvent, pour les citoyens, la confiance dans la justice ne passe pas tant par l'architecture globale des institutions que par leur fonctionnement concret au quotidien. Et là, nous avons des marges de manœuvre. Voilà, ça c'est un peu la stratégie pour le moment, mais ça vaut vraiment la peine de suivre ce qui se passe en Pologne, parce que, comme je disais, c'est vraiment le laboratoire pour un processus qui n'a vraiment pas des précédents. C'est vraiment pas, comme je disais, comme dans les années 70 ou 80. Bon, finalement, mes propositions en ce qui concerne la question « quoi faire exactement ?». Premièrement, création d'un article pour éjecter un État membre. Ça peut donner l'impression d'être un peu brutal, mais après tout, par exemple, en mars 2022, il était tout à fait possible pour le Conseil de l'Europe d'expulser la Russie. Et tout le monde était d'accord qu'avec la guerre en Ukraine, c'est totalement justifié. Et si vous regardez d'autres organisations internationales, en Afrique, soit en Afrique, soit en Amérique latine, il est normal d'avoir la possibilité d'une expulsion. Alors, pourquoi pas en Europe? Pourquoi pas utiliser, si rien d'autre, cet article pour avoir un effet, si vous voulez, dissuasif. Deuxièmement, la création de ce que je voudrais appeler une commission de Copenhague. Pourquoi Copenhague? Vous vous souvenez, les critères de Copenhague pour l'adhérence à l'Union européenne. C'est à cause du ça. Il faut avoir une démocratie, il faut avoir l'état des droits. Ça doit être un comité des experts nommé par des États membres. Et, moins évident, pas seulement des juristes, mais aussi des personnages avec une expérience avérée en matière de jugement politique. Les anciens présidents, d'autres personnes avec, comme je disais, une expérience avérée en ce qui concerne le jugement politique. Bon, évidemment, vous pouvez poser la question, mais on a déjà une commission comme ça. Après tout, c'est la Commission de Venise, avec le titre, comme vous savez, officielle Commission européenne pour la démocratie par le droit. Alors, pourquoi doubler les institutions? Deux réponses. Premièrement, cette commission de Copenhague pourrait prendre l'initiative elle-même. Ça serait une différence importante. Et deuxièmement, à mon avis, ça serait des spécialistes pour précisément la situation en l'Union européenne. Et ce n'est pas évidemment le même que le Conseil de l'Europe. Pourquoi pas la Commission européenne? Pour faire bref, parce que la Commission européenne est déjà trop politisé. Comme je disais, il a les deux rôles, procureur général et en même temps acteur politique. Et il est vrai qu'on a presque oublié toutes ces grandes promesses autour, bon, je connais seulement le long mot allemand, Spitzenkandidaten. Ça veut dire qu'il faut mettre en tête des personnages bien connus pour avoir une vraie démocratie en Europe. Les citoyens partout ont le sens que, bon, on vote vraiment pour le président ou la présidente de la Commission européenne. La dernière fois, on a déjà complètement abandonné cette idée. Personne ne savait vraiment qui était vraiment le candidat en tête pour les socialistes exactement. On connaît von der Leyen, évidemment, mais pas les autres. Quand même, ça reste une possibilité. Et on ne peut pas, en même temps, dire on veut un exécutif très, très politique, visiblement partisan, et en même temps, on dit non, ça doit être une institution neutre pour protéger la démocratie et l'état des droits. Alors, à cause de ça, il est nécessaire d'avoir une institution qui est dépolitisée. Quand même, selon mes idées, il serait possible, sur recommandation de la Commission de Copenhague, pour la Commission européenne de suspendre des subventions. Parce qu'apparemment, après tout, ça marche. Mais attention, finalement, ce n'est pas la même chose que la démocratie militante. Démocratie militante, ça veut dire restriction des droits fondamentaux, mais n'a pas avoir des subventions. C'est, évidemment, ce n'est pas un droit fondamental dans le sens politique. Mais, troisièmement, c'est aussi à cause de ça que, à mon avis, il faut garder, maintenir les mécanismes qui existent déjà. Alors, on ne touche pas l'article 7, ça reste là. Après tout, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. On peut même imaginer que peut-être un jour, ça cesse d'être une arme, une option nucléaire. Il n'y a pas des raisons pour abolir ce qu'on a déjà. Quatrième proposition, renforcer le système politique à l'échelle européenne. Ça veut dire donner plus de pouvoir et aussi plus de ressources aux partis européens, y compris la capacité d'intervenir dans les États-nations. Avoir vraiment la possibilité des mobilisations transnationales, donner la possibilité aux gens de s'engager au nom de la démocratie, au nom de l'état des droits, pas seulement dans leur propre pays, mais dans d'autres pays, avec des ressources et avec des outils juridiques. Et finalement, et peut-être c'est moins évident, abandonner la rhétorique des valeurs européennes. Ici, je suis complètement d'accord avec notre collègue Justine Lacroix, qui disait pendant ses conférences ici au Collège de France que, je cite, « une préférence pour le langage immanent des droits et des libertés et contre les risques de paternalisme ou d'identitarisme auxquels peut conduire l'exaltation de, entre guillemets, nos valeurs communes. » Autrement dit, au lieu de parler des valeurs, nous avons besoin, et je cite encore Justine, un affrontement civilisé entre diverses interprétations des droits proclamés. Autrement dit, la rhétorique autour des valeurs européennes, c'est trop arbitraire, c'est trop subjectif d'une certaine façon, et ça c'est crucial, ça nous permet pas vraiment de faire une distinction entre questions institutionnelles, si vous voulez, questions systémiques autour de la démocratie et l'état des droits. Vous vous souvenez des critères dont on a parlé. D'un côté ça, et l'autre côté, des questions morales très très controversées. Les enjeux, pour faire bref, des guerres culturelle. En ce qui concerne ces questions-là, je crois qu'après tout, il faut accepter quelque chose comme la subsidiarité. On n'est pas d'accord en Europe sur, par exemple, l'avortement. Moi, j'ai des opinions assez fortes, probablement comme tout le monde, mais on ne peut pas dire que, d'une certaine façon, il ne faut pas respecter le pluralisme, l'hétérogénéité, si vous voulez, des traditions dans les pays membres de l'Union européenne. On peut en même temps respecter le pluralisme des systèmes judiciaires, mais là, on peut quand même trouver des critères pour dire, bon, il y a des situations où l'état de droit ne fonctionne plus. Alors, c'est peut-être controversé, mais voilà, c'est aussi une manière de répondre à une question, encore une fois, de Angelika Nussberger. Pendant ses conférences ici, elle posait la question, je cite, « Pourquoi ne pas être plus sensible aux valeurs traditionnelles des sociétés d'Europe de l'Est pour des questions où le consensus est difficile à entendre ?» Bon, attention, parce que souvent, on a tendance d'exagérer le fossé entre Ouest et Est. Ce n'est pas forcément le cas qu'à l'Est, tout le monde est plus conservateur. On a parlé une fois du fait que c'était précisément parce que les idées sur l'avortement du Parti de droit et justice n'étaient pas du tout populaires en Pologne qu'on a laissé la décision à la cour constitutionnelle. Alors, il faut se méfier de ces distinctions un peu essentialistes entre Ouest et Est, mais quand même, l'idée qu'il y a pas mal de choses où on n'est simplement pas d'accord, des choses qui ne touchent pas question de la démocratie, qui ne touchent pas question de l'état des droits, il faut accepter la diversité, le pluralisme. Et si on fait ça, on peut peut-être aussi éviter la judiciarisation de la politique. Vous vous souvenez, ça c'était toujours le problème pour pas mal de nos collègues qui nous disent, bon, le problème c'est que le constitutionnalisme, d'une certaine façon, a vaincu la démocratie, tout est maintenant une question des décisions des juges, etc. etc. Voilà. Les cinq propositions. J'ajoute simplement quelques réponses à ce que je pourrais imaginer comme objection immédiate. Premièrement, tout ça est trop technocratique. Parce que c'est typique des professeurs. Qu'est-ce que la solution? La solution, donnez-moi un conseil des sages. C'est un peu technocratique, élitiste, platoniste peut-être, gouvernement des philosophes et des juges, ou peut-être pire encore, macroniste. Il faut avoir simplement des experts et voilà, tout est résolu. Peut-être c'est justifié, mais en même temps, il n'y a aucune raison pour exclure d'autres possibilités. La lutte des partis continue. La lutte de la société civile, ça peut continuer. Autrement dit, c'est une fausse alternative de dire « Oh, c'est seulement les experts ou la société civile ». Il ne faut pas faire un choix ici, c'est un faux dilemme de dire « Bon, on ne peut pas s'engager en même temps comme non-expert, comme membre de la société civile ». Deuxièmement, peut-être mes propositions, après tout, nient la diversité, ne respectent pas vraiment la diversité, le pluralisme des traditions européennes. Et autrement dit, il y a un danger ici de créer un espace juridique homogène d'une certaine façon. On ne respecte après tout pas la subsidiarité. Et voilà, ça serait un danger. Oui, c'est aussi justifié. Mais en même temps, je dirais que normalement, c'est ce qu'on trouve. Ce ne sont pas vraiment des arguments pour la hétérogénéité des traditions constitutionnelles en Europe, mais c'est plutôt l'abus du constitutionnalisme comparatif. On invoque abusivement des arguments de l'identité nationale ou aussi de l'identité constitutionnelle. Et il ne faut pas simplement prendre au pied la lettre de ces arguments. Encore une fois, je cite Angelikanos Berger, « L'identité constitutionnelle devient une âme fort vide que chacun peut emplir à sa guise. » Et plusieurs fois, on a vu précisément ça avec, par exemple, encore une fois, le gouvernement polonais et aussi le gouvernement hongrois. En outre, il faut certainement se méfier des stratégies populistes. Qu'est-ce que je m'explique? Si un chef d'un gouvernement dit « c'est moi et seulement moi qui représente la nation », si vous êtes contre notre gouvernement, vous êtes contre notre nation, ça c'est précisément une stratégie populiste. Je cite par exemple un discours de Viktor Orban dans le Parlement européen en 2018. Vous êtes, c'est la Commission européenne, le Parlement, vous êtes sur le point de condamner non pas un gouvernement, mais un pays et un peuple. Vous allez condamner la Hongrie qui, depuis un millénaire, est membre de la famille des peuples chrétiens de l'Europe. Vous allez condamner la Hongrie qui s'est élevée et a pris les armes contre la plus grande armée du monde, contre les Soviets, qui a fait le plus grand sacrifice pour la liberté et la démocratie. Je nie pas le sacrifice, etc. Mais cette idée, c'est moi et seulement moi qui représente la Hongrie. Ça, c'est clairement une stratégie populiste. Troisièmement, on pourrait aussi dire, après tout, c'est très typique d'avoir une commission de Copenhague, avoir des sanctions, etc. Parce que tout ça, c'est précisément ce que Didier Fasson appelle notre moment punitif. C'est le goût de punir tout le temps. Il faut trouver des outils pour punir les gens, surveiller les gens, punir les gens, etc., etc. Et encore une fois, c'est tout à fait justifié d'avoir ces soupçons, de se poser des questions, d'avoir des inquiétudes. En même temps, c'est encore une fois un faux dilemme, parce qu'on peut en même temps faire beaucoup de choses si on a l'impression que ce n'est pas vraiment un problème politique, c'est peut-être vraiment un problème que un système judiciaire ne fonctionne pas à cause des problèmes techniques, le financement ne marche très bien. On peut faire pas mal de choses qui sont très, très positives. Ce n'est pas seulement une question des peines et des bloqués, des subventions, etc., etc. Bon, peut-être après tout, quand même, ce sont des vœux pieux, les illusions d'un philosophe de la démocratie. C'est tout à fait possible. Peut-être les États membres n'accepteraient jamais une telle modification du traité. Ou autrement dit, il y a peut-être vraiment un problème structurel, quasi paradoxal, une situation quasiment paradoxale. Parce qu'après tout, pour concrétiser ces avantages dont je parlais, il faudrait que ceci ait déjà été réalisé. Ou, parce que je veux finir avec une chose peut-être un peu prétentieuse, on peut au moins citer Jean-Jacques Rousseau, parce que c'est d'une certaine façon aussi le fameux problème avec le législateur. Vous connaissez cette citation sans doute. Une manière de dire des choses d'une manière plus simple, on pourrait dire, après tout, c'est le problème de la poule et de l'œuf. Et voilà, après tout, on ne peut rien faire parce que les conditions pour établir la solution ne sont simplement pas là. Et avec ça, je vous remercie pour votre écoute.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.